Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque 28e pour la 4e saison. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Lilian Serre. Et bonjour André Bory, tous
bonjour.
Les deux responsables d'associations. Lilian Serre, c'est le collectif Colère. Vous nous expliquerez ce que c'est. C'est un collectif de riverains de l'usine Malvézy à Narbonne. Quant à monsieur André Bory, vous présidez une association alors environnementaliste qui défend un certain nombre de choses, mais notamment qui s'oppose à un processus prévu à Malvézy qui s'appelle traitement des nitrates et dont beaucoup d'auditeurs ont forcément entendu parler, j'imagine, et en entendront parler encore un certain temps, je le pense. Alors Michel, ton sommaire prévoit un billet, le rappel d'un billet, comme c'est souvent le cas, évidemment, dans ces contre-regards. Non, un élu de la République ne peut pas diffuser ce genre de turpitude.
Oui.
Écris-tu et nous diras-tu dans ce sujet. Et puis, deuxième sujet, les radicaux, politiquement, les radicaux veulent un groupe à l'Assemblée nationale. Bon, ce qui est un peu dans une certaine logique, puisqu'ils se rabibochent, les anciens de droite et de gauche.
Mais pourquoi donc?
Mais voilà, alors s'ils y arrivent, avec un groupe à l'Assemblée, qu'est-ce que ça va donner là où ils siègent unis avec les socialistes dans d'autres instances, par exemple, au hasard, à la région Occitanie. Dans une deuxième partie, un sujet, alors là, comment délectable tel qu'on les adore dans ces contre-regards de Radio Barque, Monsieur Sorel contre Madame Delga à propos d'arbres coupés.
C'est ça, oui. Que j'ai intitulé sur, non pas sur mon blog, mais sur un tweet, Madame Delga qui prend une bûche. Pour
oui.
Une expression typiquement
bon,
méridionale.
Il faudra bien expliquer de quoi il s'agit, mais
oui.
On va voir que c'est pas piquer des hannetons, comme on dit familièrement. Alors tout d'abord, Michel, qu'est-ce que c'est qu'un élu de la République ne peut pas diffuser comme ça?
Oui, Jean-Claude, tu le sais, en fait, nous sommes tous plus ou moins accros, enfin, non pas accros, mais en tout cas, nécessairement intéressés par ce qui se publie sur les réseaux sociaux, notamment quand ces publications viennent d'élus qui ne sont pas sans responsabilité, notamment sur notre territoire. Et il se trouve que ces temps-ci, je constate avec une certaine stupéfaction d'ailleurs, pour ne pas dire plus quant au degré de ma colère, que parmi ces élus en question qui se laissent aller fait à des commentaires sur la politique en général et la politique française en particulier, certains d'entre eux n'utilisent pas à utiliser des moyens qui me semblent tout à fait indignes. Je dis comme je le pense et mon propos est, tu le comprendras, comment dire, teinté d'euphémisme en la matière.
Ouais.
Ce qui veut dire que je retiens effectivement mes mots. Sur le...
Alors exemple.
Quel est l'objet de l'objet donc
cette colère. Explique et illustre.
J'aperçois en fait sur la page d'un élu, encore une fois, de la région narbonnaise, maire d'une petite ville de la Narbonnaise, vice-président de l'agglomération de Narbonne, et par ailleurs, membre du bureau fédéral d'un parti qui a exercé des responsabilités politiques gouvernementales importantes, notamment pendant le dernier mandat, donc on reconnaîtra hein, quel est le parti en question, le parti dominant dans ce département. Donc ce monsieur diffuse l'autre jour sur sa page Facebook une photo présentant deux cartes. Deux cartes de l'Europe. La première carte de l'Europe est la carte de l'Europe sous domination hitlérienne, c'est-à-dire rouge avec une croix gammée. La deuxième carte est une carte de la même Europe, hein, bleue,
aujourd'hui,
avec le drapeau européen. Et en surtitre, il y a deux manières de dominer et d'asservir un peuple, par les armes ou par la dette.
Oui, c'est un amalgame.
Comparaison.
Ça, c'est un amalgame, effectivement, qui est assez gonflé.
Alors, d'autant plus gonflé que la citation en question que j'ai, bon, non pas, comment dire, modifiée, mais en fait, mais qui est une citation d'un des premiers présidents des États-Unis, John Adams. Je fais la parenthèse. Donc, voilà un élu socialiste qui ose, en fait, publier ce genre de comparaison, qui dit en substance qu'entre Hitler et Madame Merkel, c'est à peu près la même chose, en tout cas la même logique, la même finalité, dominer en fait, l'ensemble des États-nations de l'Europe en les contraignant, effectivement, à subir, en fait, une dette qui leur est imposée, à minima, en tout cas, par l'Europe et Mme Merkel, qui est l'économie et, la, et l'État dominant, entre guillemets, en Europe.
Ouais. Alors, il n'est pas tout à fait le premier, seulement, il est maire d'une commune.
Évidemment, je ne suis pas contre la critique en général, quoi, hein, de toute politique. Bien au contraire, en fait, la critique, d'une certaine manière, elle est positive quand elle est honnête intellectuellement. Hein. Bon, voilà. Et autant je peux pardonner, en fait, à un imbécile notoire, en fait, de publier ce genre d'ânerie, en fait, qui est très vite éventé, autant je trouve que sous la plume, en fait, et sous la responsabilité, sous l'autorité d'un élu, hein, dont les citoyens lui ont confié l'exercice de mandat qu'il devrait exercer en toute dignité, comme sa fonction l'exige, je trouve ça particulièrement choquant, pour ne pas dire plus. Alors, première remarque. Deuxième remarque, c'est d'autant plus idiot, en fait, hein, idiot, que c'est stupide, c'est sur le fond. Une entreprise comme un État, nécessairement, doit, dans sa gestion de son budget, c'est presque quasiment une obligation, avoir dans ses recettes une part de dette.
D'ailleurs, la commune en question est très probablement endettée.
Bien entendu. Et probablement que lui, fait tout son fils, fait tout je ne sais qui, l'est aussi en partie. Et il est bien connu, en tout cas dans le monde de l'entreprise, je vais faire référence à Schumpeter, qui précise bien que en matière, quand une entreprise investit, au moins 50% en fait de son investissement doit être assuré par des fonds propres et le reste par de l'emprunt. Et de la même manière, bon, pour nous placer au plan européen, comme ce monsieur, en fait, d'une manière tout à fait stupide, en fait, nous le propose, rien n'empêche aujourd'hui les États européens, et notamment le traité de Maastricht, dont on dit aujourd'hui qu'il serait le traité des Allemands, en fait, notamment dans la bouche de ce monsieur, en fait, hein, le traité en question prévoit que les États ne doivent pas dépasser 60%, en fait, hein.
D'endettement du PIB
de leur richesse produite
par rapport au PIB.
Voilà, hein, ce qui est 10% au-dessus de ce qui est prévu pour les entreprises. Donc rien aujourd'hui n'empêche effectivement les États de l'Europe en question de s'endetter, sauf qu'il est précisé dans le traité de Maastricht qui vaut, enfin pour tout le monde, puisqu'il a été décidé par l'ensemble des États européens, de ne pas dépasser certaines limites. Et c'est vrai que de ce point de vue, la France est particulièrement mal placée,
oui, voilà.
Forcément, hein, comme d'autres pays de l'Europe du Sud. Hein, qui, bon, avec ces autres pays du Sud, a, comment dirais-je, ce fétichisme, pour utiliser une expression tout à fait récente du président de la République Macron, a ce fétichisme de la dépense publique, contrairement aux Allemands qui ont le fétichisme, au contraire, hein, de la rigueur budgétaire et de minimum.
Avec une histoire différente
qui peut
expliquer ceci aussi.
Voilà. Alors, encore une fois, bon, Jean-Claude, ce que je voulais dire et faire passer comme un message, c'est que on doit, en fait, hein, au contraire, promouvoir la critique. Rien, effectivement, de ce plus
stupide. Mais là, ça dépasse les bornes.
Et encore une fois, venant d'un départ de la République, qui devrait, en tout cas, quand il s'exprime publiquement sur les réseaux sociaux, dont on sait, en fait, l'usage qui en est fait par certains, avoir un minimum de sens de responsabilité, de pas diffuser n'importe quoi.
Alors un petit mot sur les radicaux, le Parti radical qui veut maintenant son groupe à l'Assemblée nationale, après s'être réuni de nouveau, le Parti radical, le plus ancien parti politique de France, paraît-il. Alors qu'est-ce que ça va donner? Bon, c'est d'un côté c'est banal, mais ça va engendrer des choses
si
peu banales.
C'est pas si banal que ça, parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y avait bien longtemps qu'on n'avait pas entendu les radicaux de droite et de gauche enfin réunis, encore que réunis. Cela reste à démontrer, parce qu'il ne suffit pas de se rassembler, de se réunir au plan institutionnel, et puis de laisser les clivages politiques perdurer chez les radicaux entre leur droite et leur gauche, ce qui rendrait totalement incompréhensible leur propre message politique, leur trajectoire politique et les objectifs qu'ils se fixent effectivement pour l'avenir. Donc attendons de voir ce qu'il en adviendra de leurs objectifs, de leurs programmes enfin fusionnés. Pour le moment, ils essaient à toute force de récupérer des moyens à la fois médiatiques et politiques, et surtout financiers. Financiers parce que, bon, pour avoir quelques, comment dirais-je, compléments financiers pour faire vivre leur parti, encore faut-il qu'ils aient un nombre suffisant de députés à l'Assemblée. Ils l'ont au Sénat, hein, mais à l'Assemblée, pour pouvoir constituer un groupe, il en faut 15 élus, de manière à pouvoir bénéficier de toute une série d'avantages, notamment financiers, pour alors personnel, etc.
Bref. Une fois que c'est fait, bon, ben, après tout, c'est l'application de la loi. normal.
Alors ils cherchent, mais c'est difficile, oui, parce que bon, pas... ils en sont à 14 pour le moment, ils n'arrivent pas à 15,
on est pas loin. Hein,
et ils crient, ils espèrent en arriver à décrocher encore un deuxième député de La République En Marche, présenté comme des dissidents par certaines presses, alors que le premier qui a rejoint le groupe en question n'est pas du tout un dissident, c'est un monsieur qui s'est fait virer de La République En Marche, au motif qu'il avait été condamné, ils s'en sont aperçus un peu trop tard, pour des violences faites conjugales, et pour de ce fait, pas tout à fait effectivement conforme à la morale, entre guillemets, de son mouvement. Alors la conséquence de ça quand même, Jean-Claude, c'est que l'on peut se demander ce qui va devenir des radicaux de gauche et de droite,
voilà,
dans les autres collectivités,
dans
publiques,
les régions notamment,
notre pays,
et la nôtre, et la nôtre,
et la nôtre aussi, parce qu'à l'agglomération d'Arnaud-Narbonne, nous avons des radicaux de gauche et de droite, même si ceux de droite aujourd'hui ne sont pas très, comment dirais-je, très affichés comme tels, quoi. Hein.
Oui, mais bon, mais peut-être que ça va arriver.
Ça va venir, d'autant que, d'après ce que je peux savoir, hein, le micro parti radical de droite du département, il doit être 5 ou 6 peut-être, hein, participe maintenant, hein, depuis peu, aux réunions organisées par Didier Cordonneau quand il rassemble les radicaux du quartier.
Donc ça, c'est un sujet à suivre.
Alors non seulement, pourquoi ? Parce que se profilent des échéances politiques, enfin les européennes, les municipales derrière. Donc on peut imaginer que ces
grands préparatifs d'état-major
soient aussi les préparations des futures élections européennes et municipales.
D'état-major sur lequel, bien entendu, on va revenir à Radio Barque. On marque une première pause.